Le lendemain matin, je reconnus au bas de High Street, rue très escarpée, une jeune nonne et un groupe de jeunes filles en uniforme. Je les avais déjà vues la nuit précédente en face du Guildhall. La sœur avait roulé jusqu'au bas de la rue, bras par-dessus tête. La première fois que je l'avais vue, elle avait sa guimpe et son chapelet. Maintenant, elle était complètement déshabillée et ses affaires étaient éparpillées autour d'elle. Le sol était jonché de branches cassées et de feuilles qui tourbillonnaient dans le matin blême. Plusieurs voix se croisaient à Guildford. Dans l'après-midi, quand la tempête se fut apaisée, au lieu de repartir tout de suite, je consultai la carte des chemins de fer, après avoir trouvé l'annuaire approprié. J'étais maintenant sûr d'arriver à Londres. Il me restait 45 kilomètres à parcourir. Vers 5 heures, je dépassai sur Beaton, m'attendant, d'une minute à l'autre, à apercevoir la ville. La nuit tomba, et je m'obstinai, non sans danger, à poursuivre ma route. Mais Londres n'apparaissait jamais. J'avais dû faire fausse route après sur Beaton, et je m'étais encore perdu. Le lendemain soir, je me retrouvai à Workingham, c'est-à-dire beaucoup plus loin de Londres que je n'avais jamais été. Je dormis sur un paillasson dans le corridor d'une taverne à l'enseigne de La Rose. Il y avait là, dans un lit, un individu au type slave, au regard fou, aux dents protubérantes, dont l'aspect me déplaisait, mais j'étais trop fatigué pour chercher un autre gîte. Je repartis le lendemain matin, à 10 heures, et j'arrivai à Reading. L'idée ne m'était pas encore venue de voyager sur terre comme on navigue sur mer, ce qui, pourtant, aurait été normal. Lorsque je vis une boussole dans la devanture d'une boutique de Reading située près de la rivière, je compris que je n'aurais plus aucune difficulté pour me diriger n'importe où. Avec une carte, une boussole, une règle et, dans le cas d'un long parcours, un sextant, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour transformer une locomotive en navire terrestre, on peut trouver sa route sans difficulté en opérant les rectifications nécessaires. Une fois muni de ces instruments, je quittai Reading en fin d'après-midi, avant qu'il fasse tout à fait noir. J'y avais passé 9 heures. Pour la première fois, je rencontrai là cette cohue que je devais retrouver plus tard dans la banlieue ouest de Londres. On y voyait autant d'anglais que d'étrangers, et cela faisait un nombre impressionnant. Dans les chambres et les escaliers de toutes les maisons, les morts étaient empilés les uns sur les autres, et je ne pouvais pas faire 3 pas dans les rues sans être obligé d'enjamber des cadavres. J'allais à la prison du comté. D'après ce que j'avais lu, on avait relâché les prisonniers. Pourtant, j'y trouvais autant de cadavres que partout ailleurs. Chaque cellule était occupée par au moins 10 personnes. Les corridors étaient jonchés de visages exsangues et de guenilles venues d'on ne sait quelle foire aux puces. Dans la cour centrale, c'était un entassement innommable de chairs éclatées et de chiffons barbouillés de sang. C'était sans doute le résultat de l'explosion d'une chaudière. Près de la fabrique de biscuits, je vis un jeune aveugle enchaîné à un chien que l'ouragan avait projeté contre un mur et laissé là, dans une étrange posture, le bras bizarrement tendu au-dessus de l'animal, comme s'il avait voulu m'en faire cadeau. D'une façon générale, la plupart des cadavres que je rencontrais avaient été malmenés, déshabillés et défigurés par la tempête, comme si la terre avait tenté, mais en vain, de nettoyer les rues. En quittant Reading, je passai devant une exposition d'horticulture complètement desséchée par endroits et couverte de fleurs à d'autres. Et de nouveau, dans l'air du soir, je vis voltiger 3 petits papillons. Plus loin, je croisai plusieurs trains bondés. 2 d'entre eux étaient entrés en collision et s'étaient renversés. Une locomotive avait explosé. Les champs et les chemins étaient remplis de monde, comme si les gens étaient partis à la débandade vers l'ouest, quand les trains et autres véhicules avaient manqué. À l'entrée d'un tunnel, près de Slough, je remarquai un amoncellement de débris de bois. Je traversai le tunnel en cahotant sur des centaines de cadavres, et à l'autre bout du tunnel, je trouvais un amas de débris encore plus important. Je supposais qu'une bande de désespérés avait imaginé de clore hermétiquement ce tunnel des deux côtés, avec des planches et des bûches, et s'étaient approvisionnés en conséquence, en espérant que le destin les épargnerait. Leurs barricades furent probablement démolies par un convoi qui les avait eux-mêmes écrasées. À moins que les gens enfermés dans ce refuge n'aient dû se battre pour empêcher de nouveaux arrivants d'entrer, je découvris plus tard que cela s'était souvent produit. J'aurais dû arriver plus tôt à Londres, mais par malchance, un train remontant me barrait la voie. Il était vide, et la seule chose à faire était d'y transférer tout mon fourniment. Sa machine était en parfait état de marche, bien garnie de charbon et d'eau. Je repartis sans regarder en arrière. J'étais noir des pieds à la tête. Malgré tout, vers 10h30, une fois de plus stoppé par un autre convoi, je me trouvais à 300 mètres de Paddington. Je fis le reste du chemin à pied en suivant les rails, longeant des wagons remplis de morts, assis sur leurs banquettes ou effondrés les uns sur les autres. Le spectacle de tous ces cadavres m'était devenu aussi familier que les vagues de la mer ou les branches des arbres de la forêt. Une cohue s'était précipitée sur les trains en partance ou bien avait pris possession des voies pour les empêcher de partir. J'arrivai sous la verrière de la gare. Le silence de la nuit était total, pas de lune, pas d'étoiles. Il était environ 11h. Je vis alors que, pour avancer, les trains avaient dû repousser des milliers de corps qui s'entassaient sur le ballast, mais ils avaient passé, tandis que moi, je ne pouvais marcher sans piétiner les morts. Il y en avait partout, sur les toits des wagons, entre les wagons, sur les quais, écrasés contre les piliers, empilés dans les chariots. Dehors, il n'y avait pas un espace libre entre les milliers de véhicules. Les morts tapissaient littéralement le pavé de ce quartier de Londres. Et là encore, l'odeur de péché qui, sauf sur un bateau charnier, ne cessait d'embaumer le monde, se faisait sentir, mais elle était maintenant dominée par une autre. Si l'âme des hommes, me disais-je, avait vomi au ciel cette odeur de chair que je ne connaissais que trop, rien d'étonnant que les choses soient dans cet état. Toutes les centrales électriques que je visitais avaient dû être fermées avant l'arrivée du nuage maléfique. Les gazomètres avaient été abandonnés quelque temps auparavant. Cette cité de l'épouvantable nuit, réduite au silence, où il n'y avait pas si longtemps grouillait et bourdonnait pas moins de 20 millions de personnes, me bouleversait. Je ne pouvais la comparer à rien d'autre qu'à l'Ereb et à ses ténèbres infernales. Je sortis de la gare en larmes, m'attendant presque à trouver la rumeur de la rue, moi qui étais maintenant habitué à ce grand vide silencieux. Qu'allais-je faire? Mes anciennes terreurs m'envahirent. C'est dans cet état d'esprit pitoyable que je reconnus la longue rue lugubre, sans lumière et sans son animation habituelle, telle une Babylone dévastée. Au lieu de l'ancienne rumeur, je n'entendais qu'un silence étourdissant qui montait jusqu'au ciel pour se mêler au silence des éternelles luminaires qui brillent là-haut. Toutes les voitures que je voyais étaient inutilisables, tant elles étaient agglutinées les unes contre les autres, comme soudées en un seul bloc. Toutefois, près du parc, que j'atteignis en me glissant entre les roues et en avançant avec d'infinies précautions, je finis par trouver un coupé dont le réservoir était plein. J'enlevai, non sans dégoût, les quatre corps qui l'occupaient, je m'installai au volant et mis le moteur en marche. En pétaradant à travers les rues dont je brisais le silence sépulcral, je poursuivis ma route vers l'est de la ville en écrasant une foule de cadavres. Comment suis-je parvenu à la destination que je m'étais fixée? Voilà qui me semble aujourd'hui inconcevable. Je ne m'attendais plus à rencontrer un être fait à ma ressemblance. Mais je chérissais encore l'espoir déraisonnable de trouver quelque part un chien ou un chat. Et il m'arrivait de penser avec amertume à Reinhardt, mon chien de l'Arctique, que j'avais tué de ma propre main. Je ne concevais rien de plus urgent que d'apprendre, et, s'il se pouvait, de comprendre ce qui s'était passé. De lire le récit des événements qui avaient précédé la catastrophe, et partout où je passais, je cherchais des journaux avec obstination. Je n'en avais trouvé que 4, tous d'une date plus ancienne que celle du quotidien que j'avais lu à Douvres. Cependant, il me donnait une idée de l'époque où l'imprimerie avait cessé de fonctionner. Cela dut se passer aux environs du 17 juillet, c'est-à-dire 3 mois après que j'eus atteint le pôle. Je ne trouvais aucun journal postérieur à cette date. Ce que je lus n'avait aucun caractère scientifique, c'était des prières et des lamentations. C'est pourquoi, en arrivant à Londres, j'allai directement au bureau du Times. En route, je m'arrêtai seulement dans une pharmacie pour y prendre une bouteille d'antiseptique, afin de chasser les mauvaises odeurs. Mais quand j'eus quitté le voisinage de Paddington, je n'en eus presque plus besoin. Je me dirigeai donc vers le square où s'imprimait jadis le Times. Même là, le sol était jonché de calpax et de pugaris, d'abayés noirs et de châles de prière, de caboches et de sandales, de lungis emblématiques et de soieries symboliques. Tout cela était emmêlé et fort malmené. Je traversai le square obscur et gagnai l'immeuble 2 fois plus sombre du journal. La porte d'un bureau d'annonce était ouverte et, en frottant une allumette, je vis qu'il était éclairé à l'électricité. Je repartis en quête d'un magasin d'appareils d'éclairage situé dans une ruelle. Je marchais en prenant soin de n'entrer en contact avec personne, car je ne me sentais pas tranquille, et j'allumais allumette sur allumette. La nuit était si calme que leur flamme vacillait à peine. Quand je revins avec une petite lampe allumée, je trouvai un paquet de journaux sur une table, mais comme il y avait beaucoup de morts dans le bureau et que je désirais être seul, je mis le paquet sous mon bras et, la lampe à la main, je passai derrière un comptoir et je pris un escalier qui me conduisit dans un grand bâtiment dont j'explorai tous les coins et recoins. Mes doigts tremblaient, la lampe aussi. Où que j'aille, je tombai sur des morts. Finalement, j'entrai dans une salle majestueuse comme celle d'un conseil d'administration. Elle était meublée d'une table recouverte d'un tapis de serge, entourée de bons fauteuils. Sur la table s'entassait une pile de manuscrits recouverts de poussière pourpre. La bibliothèque était garnie de livres. Un homme en blouse, de haute taille, à la barbe grisonnante, s'était enfermé dans cette pièce, fuyant sans doute devant la suffocation, car il était tombé devant la porte au moment où il essayait de l'ouvrir. Je le sortis de là en le tirant par les pieds et je refermai la porte sur moi. Je m'assis devant la pile de manuscrits poussiéreux et, ma lampe à mon côté, je commençai mes recherches. Je les poursuivis jusqu'au petit jour, mais comme je n'avais pas suffisamment rempli le réservoir de la lampe, vers 3 heures du matin, la mèche commença à grésiller en enfumant le verre et la lumière faiblit. Je connaissais le pôle et le froid, mais jamais je ne fus aussi glacé de terreur qu'en cette nuit. Je lus sans m'arrêter. Tout en lisant, j'étais pris d'une panique inimaginable. Ma chair se hérissait comme une mare sur laquelle souffle le vent. Parfois, pendant 3 ou 4 minutes, l'intérêt de ma lecture retenait mon attention, puis je parcourais une colonne ou deux sans comprendre le sens d'une seule phrase. Mon esprit était ailleurs, avec ces innombrables cadavres qui campaient autour de moi. J'imaginais qu'ils allaient bouger, se redresser et m'accuser, car le ver peuplait l'univers. On eût dit que des suaires s'agitaient dans l'air. Ma gorge était irritée par une saveur sépulcrale. Mon nez respirait l'odeur répugnante des tombeaux et le glas retentissait dans mes oreilles. Ma lampe éclairait de moins en moins et, dans mon imagination, retentissait le bruit des cercueils qu'on cloue. Des coups de pelle des fossoyeurs, du grincement des cordes quand les bières descendent dans les caveaux et des pelletées de terre qu'on jette sur les couvercles de ces boîtes qui contiennent la mort hagarde. J'avais l'impression que les morts tendaient vers moi leurs doigts glacés. Je voyais pendre leurs langues insipides et j'entendais le giclement de l'eau autour des noyers. Une eau pareille aux eaux de lavage des morgues et des chapelles funéraires s'exsudait de ma peau, car ma sueur était une sueur cadavérique. Que peut en effet devenir un homme ordinaire, fait de chair et d'os, en face de l'armée des désincarnés, lorsqu'il est seul avec eux, sans espoir de rencontrer quelque part son semblable, son père, pour en appeler contre eux. Je lisais, j'étais plongé dans la lecture, mais si la page de journal que je tournais avec d'infinies précautions faisait entendre le moindre froissement, ce bruit ressemblait à la sonnerie d'un réveil dans les chambres hantées de mon cœur, et si une envie de tousser me prenait, je la retenais le plus longtemps possible, jusqu'au moment où l'expectoration éclatait à travers mes lèvres, provoquant de froides tribulations au fond de mon âme. Les mots que je lisais suscitaient des visions de corbillards, de draps mortuaires, de lamentations, de cris aigus résonnant en long écho sous les voûtes des catacombes, de tout ce qui est atroce en cette vallée des ombres, de toutes les images tragiques de la putréfaction. Deux fois durant cette nuit de veille, j'eus l'impression qu'un personnage muet se tenait près de mon coude gauche et méditait. Je me levai en sursautant, les cheveux dressés sur la tête, serrant les poings, prêt à lui faire face. Je dus sans doute m'évanouir, car lorsque je revins à moi, il faisait grand jour et j'avais le front sur les journaux. Je résolus de ne plus jamais rester dans une maison quelconque après le coucher du soleil. Il suffisait d'une nuit comme celle-là pour tuer un cheval, et je sais que cette planète est hantée. Ce que je lus dans le Times n'était pas très concluant, mais comment aurait-il pu en être autrement ? Toutefois, cela autorisait certaines conclusions auxquelles j'avais moi-même abouti, ce qui satisfaisait pleinement mon esprit. Je pus lire dans le journal une très vive controverse entre mon collaborateur, le professeur Stanistreet, et le docteur Martin Rogers, et je n'aurais jamais pu imaginer tant d'inconvenances en pareille matière. Des hommes de cette qualité se qualifiaient en effet de novices, d'esprits chimériques et même de têtes de bois. Stanistreet refusait d'admettre que l'odeur d'amande attribuée aux nuages conquérants fût due à autre chose qu'à l'imagination angoissée des fugitifs, car, disait-il, jamais les éruptions volcaniques, pour autant qu'on le sache, n'avaient dégagé de l'acide cyanhydrique ou du ferrocyanure de potassium. Et pour lui, le pouvoir destructeur du nuage ne pouvait provenir que de l'oxyde de carbone ou de l'anhydride carbonique. Ce à quoi Rogers répondait avec une extrême acrimonie qu'il ne comprenait pas comment même un novice en chimie et en géologie osait écrire que les volcans n'avaient jamais rejeté d'acide cyanhydrique. Il affirmait que cela s'était déjà produit, mais que, même si cela n'avait pas eu lieu, on n'en pourrait tirer aucune conclusion dans le cas présent. De toute évidence, le cyanogène n'était pas rare dans la nature, car il provient de la distillation du charbon de terre. On peut aussi en trouver dans les racines, les pêches, les amandes et de nombreuses fleurs tropicales. D'ailleurs, plus d'un chercheur avait affirmé que les sels de cyanure, le potassium ou le ferrocyanure de potassium, ou les deux, devait exister en grande quantité dans les entrailles des volcans. En réponse, Stanistreet, dans un article sur deux colonnes, employa l'expression « esprit chimérique ». À quoi Rogers répondit, même après que Berlin eût été réduit au silence, en le traitant de tête de bois. Mais à mon avis, la meilleure étude scientifique était celle de Sloggett, membre du département des sciences et arts de Dublin. Sans se lancer dans ce genre de controverse, il acceptait les rapports des fugitifs en se basant sur l'assertion que le nuage, en roulant, accrochait à sa base d'autres nuages où se voyaient de longues flammes pourpres, entourées d'un halo rose. Sloggett expliquait que c'était là une caractéristique de la vapeur du cyanogène ou de l'acide hydrocyanique. Celle-ci étant inflammable, avait dû signifuger en passant sur les villes. Les vapeurs ne s'enflammaient que dans certaines conditions, en raison de la quantité d'anhydride carbonique avec lesquelles elles étaient forcément mélangées. La couleur pourpre était sans doute due à la présence de scories de roc trappéen, de basalte, de pierres vertes, de trachyte et de différents porphyres. Cet article était d'autant plus remarquable qu'il avait été écrit dès le début, en fait peu après que les communications avec l'Australie furent interrompues, et dès cette date, Sloggett établissait que le cataclysme avait pour origine une éruption volcanique comme celle du Krakatoa, mais mille fois plus forte et située dans quelques régions des mers du Sud. Mais encore que l'élément le plus actif n'était pas l'oxyde de carbone, mais le ferrocyanide de potassium, qui, en se combinant dans la chaleur de l'éruption au produit du soufre, avait formé de l'acide hydrocyanique. Cet acide volatile, disait-il, restant à l'état de vapeur dans tous les climats dont la température est supérieure à 26,5 centigrades, pouvait couvrir toute la Terre en se déplaçant dans le sens contraire de la rotation terrestre. Seules les régions les plus froides, au-delà du cercle arctique, où la vapeur se condenserait et retomberait sous forme de pluie, seraient épargnées. Il ne prévoyait pas que la végétation serait gravement affectée, à moins que le fléau ne soit d'une persistance et d'une virulence inconcevables. Car, quoique l'acide hydrocyanique provoque la désoxygénation, la végétation avait deux sources d'existence, le sol et l'air. À cette exception près, toutes les espèces, jusqu'aux formes les plus primitives, étaient appelées à disparaître. C'est le seul point sur lequel il faisait erreur. Pour le reste, il déterminait la vitesse du nuage à 160 ou 170 km par jour, et il situait la date du début de l'éruption au 14, 15 ou 16 avril, un, deux ou trois jours après que j'eus atteint le pôle. Il concluait ainsi son article. Si les choses se passaient comme il venait de l'exposer, il ne voyait aucun endroit du globe où la race humaine serait à l'abri. Seules les mines et les tunnels pouvaient être clos hermétiquement. Mais ils ne pouvaient être utilisés que par un nombre restreint de personnes et ne constitueraient une protection suffisante que si l'air n'était pollué que pendant un temps très court. J'avais déjà pensé aux mines, mais sans m'arrêter à cette idée avant d'avoir lu cet article et quelques autres. Cela me frappa soudain. C'est là, me dis-je alors, et nulle part ailleurs, que je pourrais trouver un survivant. Quand je sortis de l'immeuble du Times ce matin-là, j'eus l'impression d'avoir vieilli de 20 ans. Les heures décourageantes que je venais de vivre m'avaient rendu malade. Je flageolais sur mes jambes, ma cervelle était vide. Je pris Farrington Street et arrivai au circus où 4 rues se croisent. 4 rues, 4 rangées de cadavres, vêtus d'étoffes fanées, à moitié habillés ou entièrement nus. Souvent par couples enlacés, comme je l'avais vu à Reading. Ils étaient ici plus squelettiques, omoplates saillantes, hanches anguleuses, abdomen creux, tous les symptômes de l'inanition. L'ensemble donnait la bizarre impression d'un macabre champ de bataille où seraient tombées des marionnettes, au milieu d'une multitude de véhicules. Je dus traverser ce cimetière pour gagner une boutique du Strand, où j'espérais trouver les renseignements nécessaires sur les carrières du pays, mais les volets étaient fermés, et je ne voulais pas faire de bruit devant tout ce monde. Pourtant, il faisait grand jour, et rien ne m'empêchait de forcer la porte, car je trouvais un levier sur un camion. Je partis vers le British Museum, dont je connaissais le fichier. Il n'y avait personne à la porte de la salle de lecture pour m'empêcher d'entrer, et la salle elle-même n'était occupée que par un vieillard goitreux, les lunettes sur le nez. Il était affalé contre une échelle devant les rayons de la bibliothèque. Le dernier lecteur, sans doute. Après avoir consulté les catalogues, je passai 1 heure dans les galeries obscures et sacrées de ce lieu de recueillement. En examinant certains papyrus grecs et coptes, des chartes et des sceaux, je fis un rêve à propos de cette planète que même la plume d'un ange ne pourrait retracer sur le papier. Je sortis de là chargé de plusieurs kilos de cartes d'état-major, dont je remplis une valise trouvée dans le vestiaire. J'emportai en plus 3 livres de topographie. À Holborn, chez un fabricant, je pris un sextant et un théodolite. chez un épicier près du fleuve, je remplis un sac de provisions pour une semaine ou deux. Au quai de Blackfriars Bridge, j'embarquai dans une yole à moteur, et à midi, je remontai la Tamise, qui continuait à couler entre ses rives comme elle le faisait avant que les Brites soient nés, avant qu'ils ne construisent des huttes de pierre au milieu des forêts. Plus tard vinrent les Romains. Ils appelèrent le fleuve Tamésis. À minuit, comme je dormais sur les coussins de la cabine du bateau, amarré à une île près de Richmond, je fis un rêve. Quelque chose ou quelqu'un vint à moi et me posa cette question. « Pourquoi pars-tu à la recherche d'un autre homme ? Si tu le trouves, l'embrasseras-tu ou bien le tueras-tu ? » Et toujours rêvant, je répondis, maussade, « Je ne le tuerai pas, je ne veux tuer personne. » L'essentiel pour moi était de savoir si j'étais définitivement seul. Je ne sais quelle voix instinctive me disait « Il faut que tu sois sûr, absolument sûr. Sans cette assurance, tu ne seras jamais toi-même. » Je traversai le Midland Canal et continuai lentement vers le nord. Je n'avais aucune raison de me hâter. Le temps était encore chaud et la campagne était couverte de son feuillage d'automne. J'ai déjà parlé, je crois, de la fureur des tempêtes dont j'avais été témoin depuis mon retour. Le calme était non moins intense et non moins étrange. Tout était excessif sur cette terre peuplée de morts. Quand le vent se levait, c'était la tempête. Quand la tempête avait cessé, aucune feuille ne remuait, pas le moindre zéphyr ne ridait l'eau. Cela me rappelait les fous qui, tantôt éclatent de rire, tantôt divaguent, mais jamais ne sourient ni ne soupirent. Après avoir dépassé Leicester, l'après-midi du quatrième jour, je quittai mon agréable bateau le lendemain matin en emportant cartes et compas. Dans une petite gare, je montai sur une locomotive et partis en direction du Yorkshire, que je parcourus pendant 2 mois d'une manière extravagante, à pied, en auto, à bicyclette, encore à pied, jusqu'à la fin de l'automne. Il y avait à Londres 2 maisons que je me promettais de visiter, l'une à Harley Street, l'autre à Hanover Square, mais au dernier moment, je m'en étais abstenu. Il y avait aussi dans le Yorkshire une maison ombragée où je naquis, où je voulais me rendre, mais je ne le fis pas et je restai pendant plusieurs jours dans la partie est de la région. Un matin, en longeant la côte, de Bridlington à Flamborough, je remarquai un château entouré d'un parc. À la grille était suspendue cette pancarte « Défense d'entrée sous peine de poursuite ». Ce fut la première fois que j'eus envie de rire, d'éclater de rire. Mais je n'en fis rien. Je m'émerveillai que ce malheureux propriétaire ait pu croire, dans son extravagance, que cette portion de la planète lui appartenait. Les falaises avaient ici plusieurs mètres de haut et étaient ravinées par les éboulements dans les couches argileuses supérieures. En poursuivant mon escalade, je rencontrai des ravins crayeux fort escarpés. Je dus jouer des pieds et des mains pour les traverser avant de parvenir à un long rempart qui bordait le promontoire. C'était sans doute un rempart datant de l'époque des invasions et destiné à repousser les pirates. Ils avaient mené une vie agitée et à présent ils n'étaient plus comme tous les autres. J'arrivai ensuite dans une baie au pied de la falaise, où des bateaux étaient à sec sur les pentes, quelques-uns même très hauts, bien que la déclivité fût assez forte. Il y avait aussi un four à chaux que j'explorai sans trouver personne. De l'autre côté de la baie, je vis un village dominé par une vieille tour. Je m'y reposai pendant 1 heure dans la cuisine d'une petite auberge. J'allai ensuite jusqu'au poste des gardes-côtes et au phare. En regardant vers l'est, les gardiens du phare purent voir le nuage de vapeurs brunes et pourpres où serpentaient des flammes et dont le sommet touchait le ciel venir de la mer en se convulsant, car ce cap est situé sur la même longitude que Londres. Si l'on tient compte de l'heure où, d'après le Times, le nuage a été vu de Douvres au-dessus de Calais, Londres et Flamborough ont dû être atteints le dimanche après-midi, 25 juillet. En voyant en plein jour arriver le ténébreux instrument du destin, on le prévoyait sans doute, mais les hommes ont peut-être espéré jusqu'au bout, les gardiens du phare durent s'enfuir, car aucun n'était à son poste, et il y avait très peu de monde dans le village. Dans ce phare, une tour blanche à la pointe des rochers, je trouvai un livre dans lequel les visiteurs signent leur nom. Il faudra que j'y écrive quelque chose qui sera comme un secret entre Dieu et moi. Ayant lu plusieurs noms, je signai à mon tour.